Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la maladie, comme je le disais tout à l'heure, je ne prends pas trop de risques en soulignant qu'on y sera confronté de près ou de loin, soi-même ou chez nos proches. La maladie est pensée, vécue comme une épreuve, un chemin, un obstacle qui nous grandit quand on en triomphe. C'est le fameux « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et bien dans son dernier livre écrit pendant un cancer capricieux et chaotique, le philosophe Ruben Ogien démolit cette idée avec beaucoup d'humour. La maladie n'a pas vraiment de sens, elle n'ouvre sur rien, il n'y a aucune grandeur dans le fait de souffrir. Patients et soignants jouent des rôles comme au théâtre. Ruben Ogien est l'invité unique du Téléphone Sonne ce soir. Alors malade, ancien malade, médecin ou tout simplement curieux, intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le Téléphone Sonne.
Permettez-moi d'abord de vous saluer, Ruben Ogien.
Oui, bonsoir.
Vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS, mais « Mille et une nuits, la maladie comme drame et comme comédie », c'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu ici en studio à...
Merci de m'avoir invité.
À France Inter. Merci. On va donner tout de suite la parole à Didier qui nous appelle au standard et nous appelle de Franche-Comté. Bonsoir Didier.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Merci de prendre mon appel. Donc moi j'ai eu connaissance du sujet de ce soir tout à l'heure en voiture et ça fait tilt tout de suite parce que j'ai raccroché. Alors je connais pas votre invité ni son livre.
Lisez-le, vous verrez, c'est formidable. Et lisez tous ses livres d'ailleurs. Je ferme la parenthèse, Didier.
Eh ben c'est super parce que lire j'adore, donc ça tombe bien. Par contre, j'avais lu il y a quelques années Mars de Fritz Zorn, je ne sais pas si ce monsieur le connaît.
Oui.
C'est un Allemand qui est décédé d'un cancer, qui l'a raconté. Et le rapprochement que je fais, c'est la question, pourquoi vous avez écrit le livre? Est-ce que c'est le cancer vous a vraiment donné envie de faire a posteriori l'analyse du vécu de la maladie pour faire un témoignage ou démonter des idées reçues, des préconçues. Et est-ce qu'en plus de ça, ça vous confronte à vous-même? Est-ce que parce qu'on a un cancer, tout d'un coup, on se prend en considération autrement. Voilà.
Merci Didier. Vous n'avez pas lu le livre, mais on est au cœur du livre. Ruben Ogien, pardon, j'y arrive, vous répond. Pourquoi ce livre alors?
Au fond, je dois dire que comme souvent, quand j'écris un livre, j'avais peut-être pas d'intention très très claire au départ, et l'intention se forme au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on écrit. Que j'avais peut-être envie de faire, c'est quelque chose de plus impersonnel au fond. J'avais pas tellement envie de m'exposer, j'avais pas tellement envie de parler de mon expérience personnelle, mais je pense que j'ai dû être agacé par cette forme d'élitisme que les intellectuels ont souvent à être un peu cachetiers avec leur maladie, et j'ai eu le sentiment qu'après tout, le cancer, même si Suzanne Sontag considère que c'est une maladie obscène dont il ne faut pas parler, je pensais que c'était au fond une maladie comme une autre, qui nous paraît un peu plus mystérieuse parce que nous n'en connaissons pas les causes, mais qu'il fallait pas en avoir honte et qu'il fallait en parler de façon tout à fait naturelle, comme on pourrait parler d'une autre maladie. Et puis, au fur et à mesure du développement des idées que je voulais développer contre le dolorisme, dont nous allons reparler, eh bien, je me suis dit que faire intervenir mon expérience personnelle serait indispensable. Et donc, c'est venu plus tard. C'est pas du tout un livre qui est parti de l'intention de témoigner, mais plutôt de discuter, comme vous l'avez dit si bien, les idées reçues autour de la souffrance physique et de la maladie.
Alors allons-y sur les idées reçues autour de la souffrance et de la maladie. Je répète que vous êtes philosophe, mais « Mille et une nuits, la maladie comme drame et comme comédie » chez Albin Michel, c'est le titre du livre dont nous parlons ce soir. Quelle idée reçue avez-vous voulu détruire pour commencer? C'est celle du dolorisme? Si oui, expliquez.
Oui. Alors le dolorisme, c'est une idée qui consiste, enfin, qui est à l'arrière-fond d'un concept qui est devenu extrêmement populaire aujourd'hui, qui est l'idée de la résilience. C'est cette idée qu'au fond, lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes malade, c'est une sorte d'épreuve, un défi dans lequel vous pouvez gagner ou perdre, au fond. Mais si vous gagnez beaucoup, c'est-à-dire que vous devenez beaucoup plus lucide sur vous-même, beaucoup plus compatissant envers les autres. Donc, il y a un bénéfice intellectuel et moral au fait d'être malade. Il y avait une autre idée j'avais envie aussi de discuter. C'était cette idée que la maladie n'a pas simplement des causes, c'est-à-dire des causes physiques, mentales, mais on peut aussi lui trouver des justifications morales. Je dirais qu'il y a tout un courant religieux qui pense que la maladie n'a pas simplement des causes, mais elle a aussi des raisons, c'est-à-dire une justification, peut-être la punition pour un châtiment ou ce qui s'est passé dans une autre vie, etc. Voilà les deux idées qui me paraissaient, que j'avais envie de contester, de discuter. Donc cette idée que la maladie est quelque chose qui peut nous enrichir, nous faire du bien, et l'autre idée, c'est que la maladie n'a pas simplement des causes, mais elle a aussi des grandes justifications.
On va donner la parole à Isabelle qui nous appelle du Finistère pour que le dialogue se poursuive. Bonsoir Isabelle, bienvenue.
Bonsoir Guillaume et merci pour vos émissions.
Nicolas, moi c'est Nicolas mais c'est pas
pardon,
grave.
Oh pardon, excusez-moi, et désolé. Oh là
non,
là.
aucun problème
c'est
Marie.
C'est la Bretagne, pourtant je n'ai pas dit de Chouchen. Non, je plaisante.
Pas de problème.
Alors en fait, voilà, moi j'ai été diagnostiquée diabétique insulino-dépendante il y a 2 ans, donc je vais avoir 42 ans, et ben là la maladie, certes c'est pas un cancer parce que ça ne se soigne pas, enfin ça se guérit pas dans le sens, par rapport à ma maladie, ça se soigne. Et moi, je suis confrontée tous les jours à la maladie. J'ai des piqûres à me faire tous les 3 heures. Donc, ça, je pense que ça ronge l'âme irrémédiablement. Mmh. Et je pense que le livre, c'est clair que c'est bientôt mon anniversaire. Donc, voilà.
On va vous l'envoyer. Et donc, pour vous, la maladie ne rend pas plus fort. En fait, c'est une souffrance inutile et gratuite.
Pour moi, on relativise avec la maladie par rapport à d'autres maux qu'on peut avoir d'autres personnes. Mais je pense que ça rend plus dur. Moi, je sais que mon entourage m'a dit que j'étais devenue beaucoup plus dure. Je suis quelqu'un de dynamique, jovial et tout, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup
endurci.
Endurci.
Merci, voilà. Merci beaucoup Isabelle pour votre appel et votre témoignage que je soumets à Ruben Augien.
Eh bien, mon sentiment rejoint le vôtre, c'est-à-dire que contrairement donc à ce que le dolorisme affirme, la maladie, elle peut avoir un effet positif, je ne nie pas, mais je nie l'idée que ça soit le cas toujours et en général. Mais elle a plutôt tendance à restreindre notre horizon cognitif, moral. Elle nous met plus du côté des préoccupations matérielles au jour le jour. C'est pour ça que j'utilise souvent cette idée que la maladie devient un métier.
Oui, c'est ça, voilà.
Une sorte de profession dans laquelle on doit s'organiser, dans laquelle on pense beaucoup plus à une forme de survie, compter le nombre de pilules qu'on doit prendre, ne pas oublier des rendez-vous, etc. Et Laurent Fignon avait écrit un beau livre, d'ailleurs.
Le cycliste.
Oui, sur son, le cancer qu'il a emporté en ayant exactement cette impression, en disant que sa vie avait complètement changé dans le sens où il était à présent complètement absorbé par l'ensemble des tâches matérielles. Et il faut pas l'oublier, qu'implique le fait de gérer une maladie comme celle que vous avez, madame. Et pour le cancer aussi, bien sûr.
Avez-vous été étonné à la relecture de votre journal, du journal que vous tenez pendant les chimiothérapies et qui décrit parfaitement ce que vous venez de dire, à savoir le rétrécissement du réel à des questions de médicaments, de prise de sang, de contrôle, de ceci, de cela ?
Bien sûr, enfin, je...
Vous pensiez quoi, faire de la littérature quand vous avez commencé ce journal et vous êtes vu...
Pas du tout, j'étais en fait allongé pendant 2 mois à l'hôpital, Bon, j'avais mon petit téléphone et donc je prenais des notes comme ça. Puis ensuite, j'ai continué à le faire. Et donc, j'avais pas du tout de projet. Je tenais une sorte de journal. Vous savez, les journaux sont faits pour être lus par les autres, alors qu'ils sont censés être intimes. Alors, disons que là aussi, j'ai eu la même illusion. Je croyais que c'était un journal que je tenais pour moi-même. Mais en fait, je pense qu'il était déjà projeté vers ce que je pourrais en faire.
Qu'est-ce que, quand notre Isabelle, notre auditrice, dit qu'elle est installée dans la maladie au long cours, le fait d'être dans les affections de longue durée, comme on dit, qu'est-ce que ça donne? Comment vous l'avez vécu de vous dire « je suis malade à perpétuité maintenant » ?
D'abord, il est très difficile de prendre conscience de ce que ça signifie, évidemment, très clairement, puisque probablement, on doit avoir une compréhension de la maladie qui fait que on se dit toujours que on va peut-être guérir, il va y avoir peut-être des nouveaux traitements, qu'on va s'en sortir. C'est-à-dire que l'idée de ce que représente exactement la maladie chronique, c'est-à-dire une sorte d'affection dont sans espoir de guérison, mais simplement de stabilisation, je pense qu'il est assez difficile d'en prendre conscience et de savoir ce que ça représente vraiment. J'ai toujours une sorte d'espoir que ça s'arrêtera à un moment donné. Je ne dis pas que s'il n'y a pas cet espoir, on perd tout le goût de vivre, etc. Non, ce n'est pas le cas. Enfin, je ne pense pas, mais je ne pourrais pas vous donner une réponse très très claire à cette question.
Laurence, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de la région Centre.
Oui, c'est ça, Orléans.
Nous vous écoutons.
Alors voilà, je voulais vous apporter mon témoignage de maman. J'ai accompagné dans les soins ma fille cadette âgée de 22 ans qui avait été diagnostiquée d'un lymphome d'Hodgkin elle a été soignée pendant 2 ans. Et donc, arrivé à un moment, quand on soigne son enfant d'une maladie grave et qu'on a toujours la pensée de la mort en tête, on cherche un sens. Moi, il fallait absolument que je trouve un sens à ça, et j'ai trouvé son sens. Ça m'a permis simplement d'accepter la maladie de ma fille.
Tenir, j'imagine, Laurence, tout simplement.
C'est ça. C'est de pouvoir l'accompagner dans les soins. Il fallait être là, il fallait être présente avec elle. À un moment, il faut trouver du sens. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec votre invité. J'ai pas du tout envie d'expier quoi que ce soit. J'ai rien à expier. La maladie ne grandit pas, elle renforce pas. Mais moi, j'ai cherché le sens pour pouvoir accepter la maladie de ma fille.
Merci beaucoup, Laurence, et j'espère que votre fille va bien. On soigne mieux les maladies d'Hodgkin aujourd'hui, Laurence.
Oui. On les soigne. Demain, en fait, c'est 26 ans.
Quand vous dites permettez-moi cette dernière question.
Oui,
quand vous dites que il a fallu trouver un sens et que vous l'avez trouvé pour rendre cette maladie acceptable, c'est quoi ce sens que vous avez trouvé?
Alors en fait, c'est l'histoire. C'est une histoire entre ma fille et moi. Ma fille, quand elle est née, m'a été enlevée à la naissance pendant 2 heures par les infirmières. J'ai jamais su pourquoi. On m'avait dit qu'elle était tellement belle qu'elle avait fait le tour de l'hôpital. Mmh. Et donc, j'ai eu l'impression que je n'avais pas pu prendre soin d'elle tout de suite. Et donc, prendre soin de sa maladie où elle a été... Les chimiothérapies ont été très loin, les opérations... Il a fallu la porter, il a fallu la soigner, elle dormait avec moi quand elle terminait ses finaux. Donc voilà, j'ai eu l'impression ce sens-là, ce sens était là pour moi, d'en fait, de me permettre de faire ce que l'on ne m'avait pas laissé faire à sa naissance.
Merci Laurence, merci encore. Saluez, embrassez fraternellement votre fille pour nous. Ruben Augien, comment recevez-vous ce témoignage qui est une très belle analyse aussi de la manière dont on peut au moins essayer de construire du sens dans un épisode qui, au fond, n'en a pas.
Trouver du sens à la maladie... Il faudrait savoir évidemment ce que ça signifie exactement. Est-ce qu'il s'agit de la justifier, par exemple, ou est-ce qu'il s'agit de l'expliquer? Ce sont deux choses qui sont différentes. Et ce que nous a dit l'auditrice relevait un peu des deux. À la fois une explication de ce qui s'est passé, et puis aussi une sorte de justification de la maladie. Elle a agi d'une façon qui était... qui pouvait donc provoquer ce genre de d'affection. Disons que je serais moins enthousiaste pour la partie justification que pour la partie explication. Nous cherchions des explications, et souvent des explications causales à ce qui nous arrive. Je pense que c'est à la fois un mouvement naturel, bien compréhensible, et qui nous aide aussi à arriver à expliquer pourquoi telle ou telle chose est arrivée, pour trouver des moyens de la soigner. Essayer de trouver une sorte de justification, une signification morale ou religieuse, chacun est libre de le faire, bien sûr.
Vous dites il faut séparer définitivement la maladie de la métaphysique. Est-ce que vous pouvez expliquer et nous dire, une fois qu'on a fait ce travail-là, si on se retrouve pas un peu seul?
On peut se retrouver tout seul, mais on peut aussi, comme j'essaye de le montrer dans le livre, avec une forme d'ironie, d'autodérision, avec un rapport à nous-mêmes qui me paraît tout à fait supportable. Évidemment, on peut avoir envie de chercher une signification à la maladie, une justification à la maladie, et avoir le sentiment que si on ne les trouve pas, on va être dans un état de désolation, de désespoir total. Je ne le nie absolument pas, mais d'un autre côté, le fait qu'on renonce à toutes ces explications va peut-être nous amener à je ne dis pas à sourire ou à rire de la maladie, mais avoir une attitude d'autodérision et d'ironie qui me paraît aussi être un moyen thérapeutique qui n'est pas plus mauvais qu'un autre.
Vous dites que la maladie pousse le malade à entrer dans un rôle au sens théâtral du terme. Alors ça, expliquez-le nous déjà, pourquoi le théâtre? Et à lire votre livre, on ne sait pas si c'est un théâtre comique ou un théâtre tragique. Donc voilà, j'ai deux questions en une. Normalement, on ne fait pas ça à la radio, mais pourquoi du théâtre et quel type de théâtre ?
Le sous-titre, qui a failli être le titre d'ailleurs, dit bien le contenu du livre, c'est-à-dire la maladie comme drame et comme comédie. J'ai lu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient atteintes d'une affection de longue durée, comme on dit, ou d'une maladie chronique, et souvent il tourne à une exposition un peu narcissique, tragique. Il y a des très beaux livres d'ailleurs qui sont écrits de cette façon, mais qui manquaient complètement l'autre aspect qui est l'aspect de comédie sociale dans lequel nous trouvons une fois que nous sommes dans un lieu public comme l'hôpital avec
Cette comédie?
Eh bien alors, la comédie, enfin telle que je la vois, c'est que au fond, lorsque nous sommes confrontés au milieu hospitalier, mais même en dehors, on demande aux patients de jouer un certain rôle. C'est-à-dire que celui qui tombe malade, d'une certaine façon, se retire de tout notre système productif et de ses devoirs sociaux. Et donc, dans les termes d'une sociologie classique, on pourrait considérer que c'est une sorte de déviant ou de délinquant. D'ailleurs, ça s'est dit dans la sociologie de la maladie. Puisqu'il refuse, en fin de compte, peut-être pas intentionnellement, de faire ce que la société lui demande de faire. Et donc, il faut qu'il ait des très, très bonnes raisons pour qu'on accepte cela de sa part. Et parmi les bonnes raisons, eh bien, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. C'est qu'il est vraiment physiquement incapable
de produire et de travailler.
Et la deuxième chose, il faut qu'il s'engage aussi par une sorte de contrat moral à se soigner, rester au lit quand il le faut, aller voir un médecin. Et puis, une autre clause, non seulement il doit donc s'occuper de lui pour essayer de revenir dans le système aussi rapidement que possible, mais il doit s'adresser à des gens qui sont compétents pour le faire. Donc, à des gens qui ont la compétence scientifique, pas des charlatans, des rebouteux, etc. Voilà donc trois choses que le patient doit faire. Est-ce qu'il y croit vraiment? Est-ce qu'il est complètement engagé dans ses rôles? Au fond, je laisse la question ouverte, mais je peux le voir plutôt comme un rôle social. Et le médecin, en fin de compte, s'adapte à ces trois choses, c'est-à-dire qu'il doit montrer sa compétence, d'où tout l'équipement, ses accessoires, sa blouse.
La blouse ouverte, oui, avec un badge.
Nominatif. Et puis aussi la parole d'autorité, éventuellement une voix basse, le dernier mot, etc. Donc, qui correspond un peu à la mise en scène de ses compétences, ça c'est très important. Mais il a aussi un rôle de contrôle social, puisqu'il doit prouver que donner le certificat cas au malade qui peut en effet pas travailler. Alors là, j'en parle de façon générale, hein, je ne parle pas simplement de la médecine du travail, mais je parle du rôle social du malade. Donc voilà la raison pour laquelle je vois cet aspect un peu de bouffonnerie sociale dans lequel le médecin doit jouer le rôle d'un agent de contrôle social et d'une personne qui doit montrer ses compétences, parce que c'est le miroir exact et inversé de ce que le patient doit faire.
Oui, parce que le patient, non seulement il est malade, mais il doit être un bon malade. Hein.
Oui.
Racontez-nous ce que vous dit une de vos amies qui se demande comment s'habiller pour aller à l'hôpital.
Oui, ça m'a frappé parce que lorsque j'ai voulu donner ce titre, mais Mille et Nuits, je pensais à Scheherazade, à tous les efforts de séduction qu'elle doit faire pour continuer à vivre. Alors, j'ai pas dramatisé, j'ai pas essayé de dire que notre situation était exactement de cette forme, mais l'image m'a frappé qu'il faut raconter des belles histoires, être suffisamment en forme pour obtenir notre ticket de survie, si vous voulez.
Et oui, et puis il y a la question du maquillage.
Oui, alors elle se demandait si pour aller voir son médecin, il fallait qu'elle se maquille pour montrer qu'elle est en forme, pleine d'énergie et qu'elle n'est pas encore un déchet social. Et puis d'autres fois où elle se disait qu'il valait mieux, pour attirer la compassion sur elle, ne pas se maquiller, arriver comme une pauvresse. Et donc c'était une question qu'elle se posait à chaque fois qu'elle se rendait aux visites de contrôle.
Philippe est en ligne.
Oui.
Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Merci pour vos émissions qui sont une des rares émissions intéressantes sur France Inter.
Bah écoutez, c'est gentil. C'est méchant et gentil, mais je vois le côté sympa de la question. Bon, on vous écoute, Philippe.
Je voulais apporter un témoignage parce que la publicité de l'émission disait que l'un des intervenants prétendait que la maladie n'apporte rien. J'ai été moi-même, j'ai eu une tumeur bénigne à l'œil gauche qui a mangé le plafond de l'orbite de l'œil et la paroi du sinus séparant le cerveau du monde extérieur. Voilà. Je suis quelqu'un qui dormait 4 heures par jour, je me suis mis à dormir 16 heures par jour. J'ai été opéré, et à la suite de cette opération, qui a très bien réussi, il y a une chose dont j'ai retiré de cette maladie, il n'y a plus rien d'urgent. Il n'y a plus jamais eu rien d'urgent.
Vous prenez votre temps et vous prenez le temps de vivre.
Oui, et je suis chercheur. Aucun de mes directeurs de laboratoire n'a pu, à la suite de ça, me mettre dans l'urgence. Et je n'ai jamais mis mes étudiants thésards dans l'urgence.
Donc vous avez appris quelque chose, Philippe ?
Mais absolument ! Il faut vivre.
Merci Philippe de nous avoir téléphoné. Merci beaucoup d'être intervenu, Ruben Augien.
Oui, bien entendu.
Vous avez appris quelque chose, vous, ou pas ?
Évidemment, tout cet aspect social dont nous avons parlé tout à l'heure, je l'ai découvert par la fréquentation de ce que j'appelle cette institution totalitaire qui est l'hôpital. Hein. Faut pas d'ailleurs mettre pas le voir de façon trop négative, ce mot. Il signifie simplement que nous nous retrouvons dans une institution qui est fermée avec certaines règles comme la dépersonnalisation des personnes qui rentrent, une certaine forme quand même de condescendance de la part du personnel qui encadre, parce qu'ils refusent toujours d'être identifiés, surtout dans les institutions psychiatriques, avec les reclus, enfin les patients. Donc tout cet aspect, j'ai pu le voir d'expérience. Et je pense que je n'aurais pas osé parler de tout ça sans avoir une certaine forme, je ne dirais pas de légitimité, mais sans en avoir eu cette expérience personnelle. Et comme quelqu'un l'a dit en parlant du livre, ça a été un laboratoire dans lequel j'ai découvert cet aspect. respect. Mais je n'ai pas eu, j'aurais pu l'avoir, hein, je ne dis pas qu'on peut, par exemple, se dire qu'il n'y a plus rien d'urgent, c'est quelque chose qui peut
Mais vous
être...
vous dites rien parce qu'il n'y a rien à dire ou parce que c'est un postulat philosophique de votre part, non, Ruben Augien?
Oui, il est possible.
Sincèrement.
Ne m'en demandez pas trop.
Un petit peu, alors, juste un petit peu.
Non, vous avez raison. Il y a une sorte quand même de vision qui est un peu a priori, mais ça serait absurde de dire que je n'ai absolument rien appris. Mais je n'ai pas appris ce genre de choses, c'est-à-dire des mantras ou comme celui que nous avons entendu ou d'autres. J'aurais presque été un peu gêné de dire ça, et j'ai pas de leçon à donner maintenant après avoir en étant en train d'essayer de surmonter.
La philosophie est utile ou absolument pas?
Elle peut l'être, mais je ne sais pas plus qu'un bon film de Frank Capra ou un carré de chocolat, je ne sais pas.
Ça n'aide pas à penser cette situation-là de manière un peu plus fine.
Nietzsche a un passage dans lequel il dit que la maladie, en nous forçant à rester chez nous, allongés, en nous faisant échapper à l'agitation de ce monde, nous permet de rentrer dans cette activité philosophique qui consiste à penser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça peut être le cas, mais il ne faut absolument pas en faire une généralité. Ça peut au contraire restreindre complètement notre horizon cognitif.
Et c'est plutôt du côté de la littérature, dites-vous, que vous n'avez pas trouvé des réponses parce que vous ne posez pas des questions, mais que vous avez trouvé quelque chose, en tout cas, plus que dans les essais théoriques.
Oui, plus que dans les essais théoriques, je crois, enfin, j'ai essayé après, parce qu'on m'a posé la question de comprendre pourquoi j'étais allé du côté de la littérature. Et là aussi, ce n'était pas un choix que j'ai fait avant de commencer à écrire. C'est simplement quelque chose qui s'est imposé à moi avec une certaine forme d'évidence lorsque j'ai cherché d'autres textes que celui que j'avais envie d'écrire, dans lesquels il y a un peu d'ironie, un peu d'autodérision.
Philippe
Roth.
Les
aspects comiques de la maladie n'étaient pas complètement ignorés. Mmh. Et je les ai trouvés plus dans la littérature que dans la philosophie.
Alice, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci de prendre mon appel et merci pour votre émission.
Merci à vous.
Ma question rejoint sans doute celle de l'auditeur précédent. Je suis moi-même médecin généraliste. Je suis pas adepte du dolorisme, mais je me posais la question de l'incidence de la maladie sur les relations avec les proches, notamment lorsque des maladies entre guillemets graves ou importantes sont diagnostiquées. Il n'est pas rare de voir que les relations avec les proches se trouvent modifiées. Alors il y a souvent des choses importantes qui sont dites, plus de transparence, plus de clarté. Les cartes sont un peu rebattues au niveau des relations. Alors, sans que la maladie ait bien sûr des effets sympas, je suis assez d'accord avec votre
Bien
votre
sûr, mais de fait, c'est un événement.
Mais de fait, c'est un événement. Et puis, je le constate souvent, les cartes sont rebattues, il y a des choses importantes qui sont dites. Effectivement, comme le disait le président de l'auditeur, il faut vivre, il faut un petit peu accélérer. Et souvent, même parfois, des gens qui se reparlent ou des choses importantes qui sont dites sur le plan des sentiments. Alors, je voulais avoir un petit peu l'avis de votre invité sur cette incidence, sur les notamment les relations aux proches.
Merci beaucoup Alice. Ruben Augien vous répond.
Oui, bien sûr, on ne peut pas nier cette incidence, elle est évidente. Mais je voudrais peut-être modérer l'idée que je défends. Je pense plutôt, si j'avais envie de pousser le paradoxe un peu plus loin, je dirais que personne ne croit que c'est une bonne chose d'être malade afin d'en tirer quelque chose pour sa vie, de rebattre les cartes ou de ne plus vivre dans l'urgence. Personne ne le souhaite pour lui-même ou pour ses amis. Donc, lorsque ça arrive, on peut essayer d'en faire quelque chose et d'en faire quelque chose de plutôt positif, je ne lis pas, mais si c'était si positif que ça, les gens devraient se jeter dans la maladie, et donc c'est évidemment pas le cas.
Ça a été un événement pour vous tout de même, au sens fort philosophique du terme ? C'est-à-dire qui un moment qui distingue brutalement un avant et un après, et on ne peut plus penser l'avant comme l'après, puisque les catégories qui permettaient de le faire ont disparu avec l'événement.
Vous allez me dire que je fais encore de je vais plaquer une idée philosophique que j'avais auparavant, mais non, je ne crois pas. Je ne crois pas, à part des choses purement matérielles, une réorganisation bien sûr de la vie, et puis évidemment la douleur physique et comment essayer de la supporter et de vivre malgré tout si on a envie, parce que l'un des points sur lesquels j'aimerais aussi insister, lié à la question du suicide assisté, lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi aujourd'hui encore en France il y a une telle réticence à l'égard du droit de d'avoir une aide médicale pour la fin de vie, pour eh bien c'est parce qu'on considère souvent que ce serait une forme de lâcheté de ne pas accepter les souffrances dans lesquelles nous sommes.
Et lâche celui qui lâche. Ouais.
Exactement, et du coup, ce dolorisme dont j'ai envie de parler, on le voit aussi, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons cette réticence à accepter l'aide médicale à mourir. On considère, vous êtes très très malade, vous souffrez beaucoup, eh bien résistez, faites-le, mais ça serait une forme de démission que de vouloir l'aide d'un médecin pour mourir. Donc je vois une forme de dolorisme dont les effets sont assez délétères sur cette question de la fin de vie aussi et du suicide assisté.
Vous l'envisagez différemment aujourd'hui ?
La question
de la fin de vie ?
De cette façon-là, c'est-à-dire que il aura quand même fallu un livre pour arriver à découvrir que derrière tout ça, la résistance au suicide assisté, à l'aide médicale à mourir, il y avait cette présence du dolorisme.
Benoît, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, docteur.
Donc oui, en effet, je suis médecin, j'ai 57 ans, j'ai exercé pendant 22 ans comme médecin généraliste ou de famille, je préfère ce terme, puis depuis 10 ans comme médecin hospitalier gériatre. Plutôt des réflexions que des questions. En tant que médecin, bien sûr, confronté à des personnes malades, j'ai toujours considéré que la maladie n'était jamais un bienfait pour la personne, bien au contraire, et que la maladie et la douleur faisaient plutôt s'exacerber toutes les autres souffrances, toutes les autres difficultés existentielles de mes patients. Et ce, quelle que soit la maladie, hein, que ce soit des maladies somatiques lésionnelles ou des maladies dites psychosomatiques, il y a toujours une souffrance profonde dans la maladie, et je n'en ai jamais trouvé de bénéfice nulle part. D'autre part, je crois que... Alors, j'ai vécu, moi, personnellement, un épisode de douleur qui n'était pas grave. J'ai eu une crise de colique néphrétique et j'ai été littéralement et réellement envahi par la douleur qui a pris possession de moi et qui m'a embarqué très loin dans ma tête, jusqu'à vouloir mourir, parce que c'était la seule solution pour ne plus souffrir à ce moment-là, même si je savais que je pouvais avoir des traitements. Hein, mais j'ai vraiment vécu ce moment-là d'une manière très intense. Ça n'a pas transformé ma manière d'être médecin, mais ça m'a quand même apporté un bénéfice secondaire, puisque j'ai encore plus pris conscience de... à quel point la douleur, la maladie faisait mal et emmenait les gens très loin. Et que ça, je me devais de le prendre en considération tout le temps.
Merci beaucoup Benoît. Je donne la parole à Ruben Augien sur la douleur qui est effectivement omniprésente dans votre livre.
C'est très la réflexion que vous venez de faire est très, très intéressante et importante, parce qu'en effet, la prise en compte de la souffrance, de la douleur physique pose des problèmes je dirais presque insurmontable du point de vue de l'objectivité. Vous savez, on demande aux patients sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous la situeriez? Et puis, on utilise beaucoup de métaphores pour essayer de la décrire. C'est comme si j'avais des aiguilles qui étaient plantées, etc. Mmh. Et donc, on n'a pas encore les moyens de la décrire bien. Et d'autre part, on ne la prend pas en compte non plus. Enfin, j'essaie d'en parler de ça comme la chose la plus importante, c'est la souffrance physique en dépit de tous les plans antidouleurs qui existent depuis 1998 en France. Elle reste quand même quelque chose de secondaire et pas au premier plan de la hiérarchie du travail médical.
Ruben Augien, vous dites qu'il faut séparer la métaphysique de la maladie. Bon, la mort alors. C'est quand même une question métaphysique. Qu'est-ce que vous en faites ?
Mais je ne l'ai pas abordé, la mort, je sais que les philosophes...
Il n'y a pas d'urgence, hein, non, mais je vous pose quand même la question.
Probablement, c'est quelque chose qui m'a... qui est pas présent, comme vous l'avez remarqué dans le livre. Et je sais que les philosophes disent que philosopher ou vivre, c'est apprendre à mourir. Et moi, je n'ai jamais compris ce que signifiait cette expression « apprendre à mourir », à part consulter le notaire ou les pompes funèbres.
Est-ce qu'on est en ligne avec Chantal ? Oui, Chantal de Bretagne. Bonsoir, Chantal.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Chantal.
Oui, mais écoutez, merci pour votre émission, effectivement, qui est toujours très intéressante. Je vais essayer d'être brève, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas rajouter beaucoup. Moi, je suis aussi médecin et c'est vrai que j'ai un peu réagi parce que je crois que la maladie, c'est un peu comme la guerre, comme un certain nombre d'épreuves qu'on rencontre dans la vie. Et qu'effectivement, si on ne donne pas de sens à ça, c'est extrêmement difficile de le traverser. Et
vous trouvez...
Ça nous met tous un peu au pied du mur du sens qu'on donne à la vie. Mmh. Et c'est quand même pas inutile. Après, je suis pas du tout doloriste. C'est-à-dire, je pense pas que la souffrance ait une quelconque valeur de rachat, de machin.
Mais vous trouvez que Ruben Augien est un peu pessimiste, Chantal?
Alors, mais moi, je n'ai pas lu son livre, donc c'est un petit peu embêtant. Mais effectivement, c'est par rapport à ce propos où sans doute qu'il essaye d'attaquer le côté doloriste.
Et très bien, et de manière très convaincante.
Mais effectivement, du coup, ça en vient à dire, ça n'a pas de sens, c'est normal. Enfin, moi, je crois qu'il faut absolument... Enfin bon, en tant que médecin, moi, je ne sais pas comment je ferais si les gens ne trouvaient pas de sens dans certaines... et heureusement qu'ils en trouvent, parce qu'en fait, ça a un sens, en tout cas pour chacun. Et après, on en trouve ou on n'en trouve pas, mais...
Bien compris, Chantal. Je suis désolé, il faut que je rende l'antenne, Chantal, que je donne la parole d'un mot à Ruben Augien sur votre intervention. Mille excuses, l'émission est terminée.
Bon, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont posé ces questions, et je suis... Enfin, ça va alimenter ma réflexion sur ce, à la fois les je dirais qu'en gros ceux qui ont posé des questions étaient à la fois contre le dolorisme, mais pour chercher un sens. Et voilà, je ne sais pas comment les deux se concilient.
Bah, c'est pour le prochain livre, ça, parce que longue vie à vous, Ruben Augien. Bon courage et à très bientôt. Mes mille et une nuits chez Albin Michel, un livre absolument formidable. Le journal à suivre.